Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Il y a des moments où c'est difficile. Poser un geste fort qui dise là, tu as atteint une limite et tu vas pas pouvoir aller au-delà.
Comment est-ce qu'on s'en sort positivement? Comment est-ce qu'on donne une issue éducative, on va dire, à tout ça? La question des punitions, elle revient très souvent dans les échanges qu'on a avec les parents.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé?
T'aimer? Mais qui a dit que je dois t'aimer?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour Hélène.
Bonjour Mathilde.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?
Eh bien, on va parler ensemble de parentalité et de punition en particulier, c'est ça ?
Tout à fait. Combien vous avez d'enfants et quel âge ils ont, Hélène ?
Alors, j'ai 2 enfants, un garçon de 10 ans et une fille qui va avoir 8 ans au mois de juillet.
Mmh. Alors, est-ce que vous punissez vos enfants ?
Alors, j'utilise beaucoup le « va dans ta chambre te calmer », en particulier lors de disputes ou s'ils sont insolents. Voilà, je leur demande souvent d'aller dans leur chambre, réfléchir à ce qu'ils ont fait et revenir quand ils seront prêts à demander pardon ou quand ils se seront calmés. Donc voilà, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une punition. Après, j'utilise beaucoup la menace de punition. Maintenant, vous venez à table, sinon à 3, je vais me fâcher très fort. Voilà, ça j'utilise beaucoup et ça marche très bien. Ça m'étonne toujours d'ailleurs. Puisque finalement, je me fâche rarement très fort. De temps en temps, la menace de punition qui peut porter aussi sur le temps d'écran, peut-être qu'on y reviendra, voilà.
Mmh. C'est-à-dire, vous leur dites que, soit s'ils ont fait une bêtise, vous allez leur dire qu'ils auront moins de temps d'écran, par exemple.
Voilà, exactement. Et bon, on en a parlé un petit peu, j'essaye d'éviter une punition qui pourrait ressembler à une humiliation.
Oui, ça serait quoi pour vous une punition qui serait humiliante ?
Ce que je pourrais ressentir, moi, comme un peu un abus de pouvoir en tant que parent, d'utiliser des mots, en fait, qui seraient humiliants. Et puis, j'ai jamais donné de fessée ou de choses comme ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait être humiliant.
Est-ce que c'est des genres de punitions que vous avez eues quand vous étiez enfant ?
Très rarement, et plutôt à l'adolescence, en fait, j'ai reçu... je pense peut-être 2 gifles de mon père, parce que j'étais très insolente à l'adolescence, donc j'ai dû lui dire des choses qui étaient insupportables pour lui. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est vraiment que mon père, en fait, était désarmé. En fait, j'ai ressenti que mon père n'avait plus d'autre recours. C'est ce que je ne voudrais pas que mes enfants ressentent. En tout cas, voilà, je voudrais qu'ils ressentent que je suis là et que je sais comment répondre à leurs petites bêtises ou à leurs écarts de conduite. Voilà.
Et du coup, c'est quelque chose que vous aviez à cœur de ne pas reproduire ?
En tout cas, oui. Pas recourir à la violence, on va dire, verbale ou physique, quand je me sens désarmée, voilà.
Pour vous, ça serait quoi une punition ? Parce que vous posiez un peu cette question, Hélène, de est-ce que mettre dans la chambre, c'est une punition ?
Oui.
Qu'est-ce qui, pour vous, est de l'ordre de la punition ?
Moi, la punition telle que j'aimerais qu'elle soit, ce serait plutôt une... poser un geste fort qui dise là, tu as atteint une limite et tu vas pas pouvoir aller au-delà. Voilà, ce serait ça le rôle de la punition versus l'humiliation.
Mmh.
Ouais.
Ok. Et quand vous vous retrouvez dans la situation de devoir le faire, alors vous disiez un peu le chantage de la punition ou d'isoler dans la chambre.
Oui.
Vous, qu'est-ce que ça vous fait vivre ?
Je pense que ça va. En fait, c'est plus qui est peut-être la période difficile à vivre. C'est le moment où je vais faire un effort pour pas sortir de moi-même et justement dire des mots qui pourraient blesser, etc. Tu vas plutôt l'envoyer dans sa chambre, en fait, plutôt que de prononcer des paroles que tu pourrais regretter.
Mmh. Et si ça arrive, voilà, que vous vous emportiez,
dans ces cas-là, bah, je vais d'abord m'emporter et à ce moment-là, ensuite les envoyer dans leur chambre. J'essaierai de reparler avec eux si j'ai l'impression d'avoir été trop loin, quoi. Voilà. Mmh. Ou d'avoir, en tout cas, dit des choses qui dépassent ma pensée, en fait. C'est peut-être une de mes questions. Je vois pas, en fait, comment ne jamais être énervé quand on est face à des enfants, en fait. Mmh. Voilà, je pense qu'ils mettent quand même vos nerfs à rude épreuve. Et puis, parfois, je pense qu'ils en jouent aussi. Donc, ils savent très bien comment vous énerver. Ils savent... quels sont les points faibles de leurs parents. Enfin, je ne vois pas très bien comment faire autrement que de temps en temps s'énerver quand même.
Mmh.
Voilà.
Est-ce que chez vous, Hélène, il y a des règles et si on déroge à la règle, bah, ça amène à une punition ?
Ben, il y a des règles qui ne sont peut-être pas tout à fait formulées comme ça, mais je pense que la règle numéro un, c'est la confiance. C'est, je t'accorde ma confiance, donc maintenant il faut que tu en sois digne. Enfin, en tout cas, voilà. Je pense que c'est ça la principale règle. Et bah, par exemple, ce week-end, mon fils qui voulait aller jouer chez un copain dimanche après-midi alors qu'il n'avait pas fait ses devoirs. Bon, ça, on lui dit toujours d'essayer de faire ses devoirs le plus tôt possible dans le week-end. Bon. Voilà, il ne les avait pas fait, donc voilà. Voilà, ça c'est une menace peut-être de punition. On lui a dit, écoute, tu vas chez ton copain, mais déjà tu rentres à 5h30 au plus tard, tu te mets au travail, et avant le dîner, il faut que ton travail soit terminé et qu'il soit bien fait, sinon plus d'invitations chez les copains le dimanche quand tu n'as pas fait tes devoirs. Voilà, par exemple.
Mmh. Et est-ce que ça a marché ?
Bah là, ça a marché, ouais.
Ouais, ça marche pas toujours ?
Si, en fait, pour... En tout cas, pour l'instant, bon, il a que 10 ans, donc il n'est pas non plus rentré, je pense, dans une phase de confrontation terrible avec ses parents. Mais pour l'instant, quand on est dans un dialogue comme ça, la menace de punition, elle est expliquée. Et ben, j'ai l'impression que ça marche, en fait. Voilà. Mmh. Le moment où je suis le plus désarmée, et leur père aussi, je pense, c'est face à leurs disputes, en fait. C'est parce que peut-être ça, les disputes entre enfants, peut-être que ça renvoie à d'autres choses chez les parents, je ne sais pas. Je ne sais pas très bien. En tout cas, ça, c'est quelque chose, je pense, qui m'affecte, moi. Et du coup, oui, j'ai du mal à répondre. Et donc, j'utilise souvent le coup d'aller vous calmer dans votre chambre ou alors vous arrêtez tout de suite ou sinon, pas d'écran ce week-end, quoi. Voilà.
Et est-ce que ça marche par rapport au disputes ?
Ça marche un peu moins bien puisque c'est récurrent. Ça marche parce que ça marche sur le moment en général. Mais ça n'empêche pas que les disputes aient lieu de nouveau. Donc disons que peut-être ça temporise plus que ça ne fonctionne.
Hmm. Est-ce que vous avez essayé d'autres moyens pour ne pas punir ou pour faire autrement ?
Je pense qu'on a toujours essayé de ne pas arriver à ce moment de la punition. Donc, on a été plutôt toujours dans le dialogue. Alors, je pense, en fait, plus avec l'aîné qu'avec la deuxième. Peut-être parce qu'on avait plus de temps ou je sais pas, on était plus appliqués. Et peut-être aussi parce que, du coup, lui, il a répondu beaucoup à ça. Donc, il a été plus en demande. Donc, j'explique un peu. En fait, on lui a toujours expliqué beaucoup de choses plutôt que de lui dire « tu fais ça ». On lui a dit eh « ben, tu fais ça parce qu'on pense que c'est bien pour telle raison, etc. » Et donc, lui, il a tout de suite été beaucoup dans le questionnement. Et bon, c'est assez valorisant pour le parent parce que, voilà, il a l'impression très tôt que l'enfant le comprend, etc. Après, je trouve qu'aujourd'hui, ça peut aussi trouver ses limites. Mais bon, là, c'est pas la question que vous m'avez posée.
Ça va dans cette idée que l'alternative à la punition, c'est le dialogue, etc. Mais que là aussi, parfois, ça fonctionne pas.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que là, avec lui en particulier, là, il a 10 ans, il commence à être un peu plus... En tout cas, il a plus d'autonomie, prendre l'autonomie, il va voir ses copains tout seul, il va à l'école tout seul et tout ça. Et donc, il va être beaucoup dans le questionnement sur plein de sujets. Donc, je peux reprendre le sujet du temps d'écran. Donc, on a dû lui expliquer il y a longtemps, hein, je m'en souviens même plus, que donc c'était 45 minutes d'écran le samedi, 45 minutes le dimanche, que pour un cerveau d'enfant, c'était mieux de ne pas être exposé trop aux écrans. En tout cas, récemment, il m'a dit, écoute, maman, j'ai réfléchi, 45 minutes ou finalement 55 minutes, est-ce que tu crois que ça fait une grosse différence pour mon cerveau? Bah, en fait, là, je lui ai dit, écoute, on a décidé que c'était 45 minutes, donc c'est 45 minutes. On va pas rentrer dans le détail de ce que ça fait à ton cerveau, mais voilà, c'est notre décision de parents de dire c'est 45 minutes. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus, à son âge, en demande de limites claires et que sur certains sujets, en fait, il faut arrêter de discuter et il faut juste lui dire, bah, c'est 45 minutes et c'est comme ça, ou c'est 5h30 et c'est pas 6h moins quart. Et bon, peut-être que tu n'auras pas besoin de ce quart d'heure-là pour faire tes devoirs, mais on a décidé que c'était 5h30. Et c'est tout. Et vraiment, à plusieurs reprises récemment, on a eu l'impression qu'il avait besoin de ça. Et donc, ça m'a aussi posé la question de est-ce qu'avec lui, on n'est pas rentré dans une espèce de dialogue à tout prix sur tous les sujets qui n'est pas forcément si nécessaire que ça dans tous les cas.
Oui, donc dialoguer, mais jusqu'où? Comment? Voilà, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas voilà, quelque chose d'une limite et... De poser clairement les choses.
Voilà, de poser clairement les choses. Et poser clairement les choses, j'ai l'impression que parfois, ça peut se faire à travers une punition ou en tout cas, donner une limite qui peut, en fait, parfois, être celle de la punition. En tout cas, c'est une de mes questions.
Ok, merci beaucoup, Hélène. Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte, Sophie Baudry. Bonjour Sophie.
Bonjour Mathilde.
Vous êtes psychologue, formatrice en accompagnement bienveillant de l'enfant et animatrice des ateliers Faber et Maslige pour les parents et les professionnels. Et on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Avec le développement de l'éducation bienveillante, actuellement beaucoup de parents s'interrogent sur cette question de la punition. Dans l'épisode dans lequel le docteur Guéguin était venu intervenir, on avait abordé la question des violences éducatives ordinaires, les fameuses VEO. Certains disent que la punition est une VEO, d'autres qu'elle est nécessaire au cadre et pour aider l'enfant à prendre conscience des conséquences de ses actes. C'est un peu ce que vient de nous dire Hélène. Bref, comment s'y retrouver? Est-ce qu'il faut punir les enfants? Comment réagir face à des comportements inadaptés ou inappropriés? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre avec vous, Sophie, aujourd'hui.
Oui. Alors, c'est vrai que la question des punitions, elle revient très souvent dans les échanges qu'on a avec les parents. Alors, j'ai pris effectivement des notes hein, sur ce que vous avez dit, Hélène. Cette nécessité, finalement, la punition correspond pour vous, d'après ce que j'ai compris, à la nécessité de poser des limites, de poser clairement des choses et de vous faire entendre auprès de vos enfants. C'est vrai que c'est des arguments qui sont assez souvent invoqués. Quand on parle de la punition, justement, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est d'aller interroger la pratique éducative et de faire un petit zoom arrière. Alors, vous mentionniez, Mathilde, le fait que vous aviez reçu Catherine Guéguen, qui effectivement a fait un travail formidable pour argumenter scientifiquement les conséquences des violences éducatives ordinaires sur le développement des enfants. Et ce qui semble... pour nous, en bout de course, une évidence en tant que parents, en fait, c'est un fait qui est culturel. Si on fait un zoom arrière, les punitions, ben, ça existe depuis très longtemps. Catherine Guéguen avait dû vous le dire, effectivement. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé là-dessus, comme Olivier Morel. Les premières traces qu'on a des punitions, ça remonte à il y a 5000 ans. Donc, vous voyez, pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui est ancré culturellement, qui a profondément été intégré, incorporé à notre culture. Ce qui fait que nous, ce qui nous semble une évidence, en fait, est déjà un choix culturel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une manière de dire on peut faire autrement. Et il y a des sociétés qui se sont aussi développées autrement. Mais néanmoins, étant nous-mêmes des produits de cette société, c'est difficile de s'en défaire. Parce que la punition, le caractère punitif, finalement, bien, il imprègne l'ensemble de la société. quand vous roulez trop vite, on vous met une amende, par exemple. C'est une forme de punition. Nous aussi, en tant qu'adultes, on est punis. Et donc, pour beaucoup de parents, ça semble évident que éduquer, ça rime avec punir. Et c'est là où c'est intéressant de se poser des questions, puisque maintenant, on connaît bien les conséquences sur les enfants, de remettre cette chose en question.
Quand vous nous dites, Sophie, qu'il y a d'autres sociétés qui ont fait autrement et qui n'ont pas inclus dans leur fonctionnement la punition, est-ce que vous auriez un exemple ?
Écoutez, les études qui ont été faites par des anthropologues, c'était plutôt effectivement des petites sociétés, plutôt dites primitives, entre guillemets, souvent très en contact avec la nature et qui effectivement avaient des modes de fonctionnement plutôt pacifiques. Et il s'avère que sur ces sociétés-là, la façon d'accompagner les enfants, de les materner, etc., est extrêmement différente de la nôtre et beaucoup plus proche effectivement de ce que maintenant nous, on essaie de développer à travers le courant de la bienveillance éducative ou du maternage proximal qui implique d'être proche de son bébé, de répondre à ses besoins. Et on voit que ça a donné un autre type de société et ça génère d'autres interactions au sein des membres d'un groupe, clairement.
Vous nous disiez aussi, là, Sophie, que la punition a des conséquences, en tout cas des effets sur les enfants. Quels sont ces effets ?
Les effets, ils sont à plein de niveaux. Sur un plan relationnel, la punition, déjà, elle attaque le lien de confiance entre le parent et l'enfant. Quand c'est répétitif, quand ça blesse l'enfant de façon répétitive, malheureusement, la qualité de la relation et la connexion entre le parent et l'enfant est diminuée. Clairement. On voit aussi que la conséquence, ça peut être la diminution de l'empathie de l'enfant. L'enfant, effectivement, vu le fonctionnement de la punition, qui est plutôt quelque chose qui permet d'arrêter un comportement à court terme, va faire que l'enfant va développer des stratégies pour contourner ça. Donc, c'est augmenter les mensonges, augmenter la dissimulation, parce qu'en gros, ça sera du pas vu, pas pris. Si je fais quelque chose et qu'on ne me voit pas, c'est là où il y a une dilution de la notion de responsabilité, malheureusement. On remarque aussi dans les conséquences relationnelles possibles, je ne parle pas des conséquences neurologiques et cérébrales, mais il y a la reproduction de ce comportement coercitif sur les autres aussi. Les enfants se punissent entre eux aussi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cet effet boule de neige en fait à chaque fois. C'est-à-dire que nous, on est punis en tant qu'adultes, on punit nos enfants se punissent entre eux, voire punissent, les animaux ou d'autres êtres vivants qui sont autour d'eux. Ça diminue la question de l'autonomie et puis ça crée surtout de la peur, en fait. Enfin, Hélène nous a parlé des punitions qu'elle faisait, mais quand on parle de punition, en fait, l'éventail, il est extrêmement large. Il y a les violences verbales, il y a les violences psychologiques, il y a les violences physiques. Et il faut savoir que dans l'histoire de la punition, dans les siècles précédents, les punitions étaient extrêmement violentes. Maintenant, elles nous choqueraient beaucoup parce qu'on n'hésitait pas à battre les enfants, comme on disait, comme plâtre, à l'école, à leur faire lécher le parquet, par exemple, pour les punir. Enfin, bref, maintenant, ce qui nous semble absolument intolérable, là, était une époque et on assiste globalement à une diminution de la tolérance qu'on a sur les violences faites aux enfants. Donc maintenant, effectivement, c'est plus rare de voir, par exemple, des enfants qui sont frappés en public. La plupart du temps, ça se passe plutôt dans le huis clos familial.
Même s'il est important de rappeler que légalement, ça n'est plus autorisé.
Effectivement, depuis juillet 2019, il y a des associations qui se sont beaucoup battues pour faire reconnaître le fait que l'enfant, effectivement, méritait une protection et n'avait pas à être violenté et que c'était quelque chose que la société devait condamner. Donc, il y a une loi qui, effectivement, interdit l'usage des violences éducatives ordinaires à l'égard des enfants. Alors, pour l'instant, c'est limité à la sphère parentale. Donc, c'est les parents qui ont interdiction. On espère qu'on l'étendra à tous les adultes, parce qu'effectivement, ça n'a pas trop de sens, parce que les violences que les enfants subissent peuvent aussi se produire dans bien d'autres cercles avec d'autres adultes, que ce soit dans les milieux scolaires, artistiques, sportifs, j'en passe. Et c'est à partir de là que vraiment on pourra amorcer un véritable changement de paradigme dans notre société, comme la Suède a pu le connaître il y a maintenant quelques décennies. Voilà.
Dans ce que vous nous dites, Sophie, c'est vraiment un phénomène culturel, la punition, mais qu'est-ce qui, culturellement, nous a amené à punir les enfants ?
c'est une vision un petit peu violente de l'humanité, on va dire. Hein. C'est-à-dire que ça a été malheureusement un petit peu aussi renforcé par la vision psychanalytique, hein, si je remonte pas trop loin, qui est de dire en gros, et la religion aussi, hein, qui a beaucoup imprégné ça, c'est-à-dire que nous naissons impurs ou l'enfant a des pulsions qu'il faut contrôler. Voilà. Donc on est dans cette notion de contrôle, de dire que naturellement l'enfant ne serait pas bon, serait mauvais, et en fait il va falloir avoir toute une série de techniques plutôt coercitives pour lui apprendre la discipline, à obéir, à redresser ses mauvais penchants, ses mauvais comportements, sa nature mauvaise. Et c'est pour ça qu'il y a un livre d'Olivier Morel, qui est donc le fondateur de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, qui dit « oui, la nature humaine est bonne ». Parce que c'est le postulat de base en fait de la bienveillance éducative qui dit que on doit pas combattre les comportements naturels de l'enfant, enfin en tout cas ses besoins naturels, parce que c'est en les accompagnant justement on observe plutôt que l'être humain en naissant il fait preuve d'empathie, il fait preuve de coopération et que tout ça en fait il va falloir le cultiver. Donc il s'agit pas d'aller contre son enfant, il s'agit de l'aider à développer cette empathie, cette coopération, cette ouverture naturelle. Parce qu'on estime que c'est une vision erronée de l'humanité qu'on a en pensant que l'enfant naît comme un être à dresser, dont il faut, comment dire, il faut éliminer les mauvais comportements ou les mauvais penchants. Voilà. Alors, c'est très philosophique tout ça.
Oui, tout à fait. En tout cas, ça me fait remonter un petit peu en arrière sur finalement qu'est-ce qu'on définit être une punition. Hélène nous disait bien voilà, que finalement, elle ne savait pas trop si le fait d'isoler dans la chambre, c'était une punition ou pas. Le fait de menacer d'une punition, est-ce que c'est déjà une punition en tant que telle ? Alors, vous nous disiez, Sophie, voilà, que tout ce qui était châtiment corporel, violence psychologique, verbale et physique, du coup, voilà, sont des formes de punition. Mais comme ça a plutôt tendance à se réduire, quelles seraient, du coup, aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler être des punitions ?
Alors, une punition, en fait, c'est un acte coercitif qui va exercer une contrainte sur l'enfant pour l'amener à avoir un comportement adapté ou pour lui faire comprendre que le comportement qu'il a eu n'est pas le bon. Voilà. Donc, il y a tout un éventail de punitions hein, qui passent par différents types de violences, comme je les ai énumérées tout à l'heure. Ça peut être des violences psychologiques, hein, avec de l'agressivité envers son enfant, ou le fait qu'on lui retire momentanément ou non son amour, son attention, etc. Des violences verbales avec des insultes, hein, et puis des violences physiques. Alors, la punition que Hélène a évoquée, c'est ce qu'on appelle le time out, c'est-à-dire qu'on va mettre l'enfant à l'écart dans l'espoir qu'il se calme, qu'il réfléchisse sur ce qu'il vient de faire, qu'il soit prêt à demander pardon, etc. Alors après, la réalité, c'est que le time-out, je ne suis pas persuadée que ça atteigne véritablement les objectifs que le parent se fixe. Hélène, est-ce que vous avez l'impression que durant ce moment d'isolement, l'enfant réfléchit vraiment sur son acte et adopte profondément un comportement de responsabilité suite à cette mise à l'écart ?
Non, je ne pense pas que ça aille si loin. En revanche, je constate vraiment que ça permet à chacun de se calmer, c'est-à-dire peut-être aux parents de retrouver un peu ses esprits et à l'enfant aussi, et de se dire bah peut-être il est allé un peu trop loin, tout simplement. Après, c'est un moment où on peut retrouver ses esprits. Je comprends très bien ce que vous avez expliqué de la nécessité de garder un lien de confiance avec son enfant, etc. Mais il y a des moments où c'est difficile. Et donc, pour moi, en tout cas, ça me paraît être la meilleure solution. Comme vous dites, time out, cette espèce de parenthèse où peut-être, en fait, rien ne va se résoudre, mais en même temps, rien ne va se casser non plus. Puisque, voilà. Mais du coup, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez.
Alors, je pense que le time out n'a pas la même n'a pas les mêmes conséquences en fonction de l'âge de l'enfant. Après, j'entends très bien ce que Hélène dit, on va en reparler plus tard, c'est-à-dire à un moment où on est dans une situation paroxystique, c'est-à-dire où voilà, la colère, la frustration, les émotions négatives sont tellement fortes qu'il faut que ça redescende d'un cran, il faut couper la relation, il faut s'arrêter. Et là, je dirais effectivement, c'est une nécessité hein, de couper la relation, de mettre un terme, on va dire, à quelque chose qui va trop loin, et ça, j'entends ce besoin. Après, par exemple, un time-out avec des petits-enfants, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien vécu, parce parce que isoler l'enfant dans sa chambre, par exemple, à 3 ou 4 ans, va faire en fait qu'il va se retrouver tout seul aux prises avec ses émotions négatives. Et c'est pas ce que le parent imagine en se disant bah, il va se calmer, il va prendre sur lui. En fait, l'enfant, il n'a pas encore de maturité émotionnelle suffisante pour se calmer tout seul, souvent. Et encore moins réfléchir sur les conséquences de ses actes, prendre ses responsabilités et proposer une réparation, par exemple. Hein. Faut pas rêver. Donc, du coup, le time-out avec des petits, on peut le faire avec lui.
Rester présent, donc l'isoler, mais l'accompagner.
Voilà, changer d'environnement, par exemple, parce que ça, c'est important aussi pour le petit. Hein, c'est-à-dire le changer d'environnement, dire, bon, écoute, on va aller dans ta chambre, mais voilà, moi, je ne te laisse pas tout seul, je ne t'enferme pas dans ta chambre, je suis là. Alors, en fonction de la proximité que l'enfant accepte, soit effectivement, on peut rester proche de lui ou sur le pas de la porte et lui dire, voilà, si tu as besoin de moi, je suis là, mais je ressens qu'on a tous les deux le besoin de se calmer. Alors, il y a plein de façons. Avec des plus petits, c'est vrai que le contact physique marche bien aussi. Hein, ça peut être un moment où, effectivement, on le prend dans ses bras, mais dans un autre espace, dans sa chambre, par exemple, sans forcément redébriefer immédiatement sur ce qui vient de se passer, etc. Mais j'insiste sur le fait qu'avant 4 ans, il ne faut pas se leurrer. L'enfant ne peut pas prendre le contrôle sur ses émotions et l'envoyer dans sa chambre. En fait, ça fait peut-être du bien aux parents, parce que le parent, lui, par contre, il est équipé cérébralement pour reprendre pied au niveau émotionnel, et encore pas tous, parce qu'on est pas mal d'enfants blessés souvent, qui n'avons pas bien développé notre capacité de contrôle émotionnel. Mais le tout petit, c'est quand même particulier. Après, il y a manière et manière aussi de proposer de se séparer. Le parent peut aussi lui-même se retirer de la pièce, de dire voilà, je ne peux plus, je me sens tellement en colère, tellement frustrée, j'ai besoin d'un temps calme, et il va effectivement dans une autre pièce et il prend effectivement de la distance parce qu'il n'est plus en capacité d'être en écoute et en empathie avec son enfant, où il y a des émotions trop négatives qui ont surgi. Mais il y a façon et façon de faire. Vous voyez, ce n'est pas pareil de dire à un enfant « tu vas dans ta chambre, tu restes pendant 20 minutes, on met le réveil et puis on ferme la porte à clé », que de lui dire « voilà, moi j'ai besoin que ça s'arrête là, la conversation, j'ai besoin de prendre un petit peu de temps », ou laisser éventuellement la chambre avec la porte ouverte en disant « voilà, si tu as besoin de moi, je ne suis pas loin ». Ce n'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des petites nuances qui changent tout.
Ce que vous évoquez, Sophie, ça m'évoque vraiment la question du temps de pause qu'on retrouve en discipline positive, où en effet, le parent voilà, dit à l'enfant « là, je vais exploser, donc je vais aller prendre moi, en tant que parent, un temps de pause pour éviter d'exploser ». En tout cas, là, dans tout ce que vous venez de dire, Sophie et Hélène, je me demandais, mais est-ce qu'il n'y a pas des situations où finalement la punition serait justifiée ? Quand un enfant tape à répétition, par exemple, ou traverse la rue sans regarder, ou ment
Moi, je pense qu'on peut faire autrement. Ça demande effectivement un petit temps de réflexion. Ça ne vient pas en claquant des doigts. La réalité, c'est qu'en tant que parent, en fait, on n'est pas outillé pour faire face à ça naturellement, de par notre éducation et la culture dans laquelle on baigne, pour trouver des alternatives à la punition. Mais il y en a beaucoup. Hein. Je vous citerai effectivement des ouvrages qui sont plein d'idées, plein d'alternatives, plein de façons de réfléchir la situation autrement, parce que la réalité quand même, c'est que la punition, en fait, elle est pas éducative. Il faut voir que on peut le faire par défaut, hein, j'entends, mais en fait, ça n'apprend rien à l'enfant. Ça permet à un comportement de cesser. Mais quand on est dans cette relation-là, on n'est plus avec notre casquette d'éducateur. On n'est plus là pour accompagner l'enfant.
Oui, en tout cas, c'est ce que nous disait Hélène, c'est qu'à un moment donné, la punition, en tout cas à l'instant T, ça va permettre de modifier le comportement inapproprié de l'enfant. C'est une approche finalement à court terme. Là, vous nous dites, Sophie, qu'à long terme, finalement, soit ça a des conséquences négatives, ou en tout cas, ça ne permet pas à l'enfant de se développer, si je comprends bien.
Oui, et puis ça nourrit pas la relation parent-enfant. C'est pas simple, parce que l'enfant, il prouve des choses quand même. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, Hélène, ce que vous disiez, parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire et qui est vraiment, par exemple, à la base de toute la pédagogie Faber et Maslisch, c'est de vous reconnecter à votre propre ressenti en tant qu'enfant, quand vous aviez reçu des punitions. Ça, c'est fondamental. C'est cette gifle que vous aviez reçue, elle a certainement pas été éducative. ça n'a pas nourri le lien avec votre parent, même si vous étiez assez grande, j'avais compris, et du coup, vous étiez mis à la place de votre papa, et voilà. Mais néanmoins, c'est pas comme ça qu'on construit une relation de confiance et d'authenticité avec son enfant. Alors après, quand je dis ça, ça veut pas dire faut jamais s'énerver, le parent c'est parfait, c'est Gandhi, mais pas du tout, hein. C'est juste qu'il faut avoir en tête la réalité des conséquences, hein, sur les enfants, parce que finalement, une punition, qu'est-ce que ça provoque? Ça peut provoquer des désirs de vengeance de l'enfant, ça peut provoquer des sentiments d'humiliation. D'ailleurs, ce mot, Hélène, vous l'avez beaucoup repris sur le fait que vous vouliez épargner absolument le sentiment d'humiliation chez vos enfants, et je trouve ça magnifique. Ça va faire ressentir aux enfants de la culpabilité, de la colère, de l'incompréhension, de la solitude aussi dans ses ressentis, ou de la tristesse. Bref, c'est pas des choses qui vont permettre à l'enfant de grandir, en fait. Et du coup, il va dépenser de l'énergie pour accueillir tous ses ressentis négatifs, et ça va pas orienter vers une recherche de solution, vers une recherche de réparation, vers quelque chose qui va lui permettre de dépasser l'obstacle qui a été identifié. Dans l'absolu, on pourrait dire que quand il y a un conflit, il y a un problème, ça serait aussi une opportunité de faire évoluer l'enfant, de faire évoluer les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on peut s'en saisir ou pas.
En tout cas, là, Sophie, je me dis, mais j'entends des parents que j'accompagne et qui peuvent me dire, mais oui, mais c'est important de punir pour que l'enfant, il prenne conscience des conséquences qu'ont ses actes. Donc, l'importance d'exposer l'enfant aux conséquences. Mais du coup, peut-être que là, ça amène une distinction entre la question de la punition et la question de la sanction.
Oui, oui, c'est une distinction effectivement qu'on fait. C'est-à-dire que la punition est donc un acte coercitif qui va exercer une contrainte sur l'enfant et qui vise à lui faire ressentir des sentiments négatifs pour qu'il associe les sentiments négatifs à l'action qu'il a mal faite ou le comportement inapproprié. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, c'est assez basique comme raisonnement. C'est un petit peu, c'est pas très élaboré comme position éducative. Et du coup, tout ce qui pourrait découler du fait d'accompagner l'enfant et de l'exposer aux conséquences en termes de prise de conscience, de responsabilité, de réparation, etc., on zappe tout ça dans la punition. Une punition, typiquement, c'est quelque chose qui vise, oui, à blesser l'enfant, à lui faire mal ou à lui faire ressentir quelque chose de négatif, à le priver d'un plaisir, généralement qui est pas en lien avec l'acte. Qui pose problème, qui n'est pas forcément proportionné, qui parfois se déroule loin dans le temps. Hein, typiquement, un grand frère tape sa petite sœur, et ben, il sera privé de la prochaine sortie cinéma de la famille alors qu'il se faisait une joie d'y aller. Bon, ça, c'est typiquement une punition. Ce n'est pas éducatif, en fait. Il n'y a pas de lien entre le fait d'aller au cinéma et le fait qu'il ait tapé sa petite sœur. Est-ce que c'est une occasion pour lui de prendre conscience de ce que sa petite sœur a ressenti ou de réparer la relation à sa petite sœur ? Non, pas du tout. Donc ça, c'est typiquement une punition. Après, il y a quelque chose de l'ordre de la sanction, c'est-à-dire qui expose aux conséquences des actes, serait bien différent. Par exemple, dans cet exemple-là, ce serait déjà de donner la parole à la petite sœur, par exemple, qui a été tapée, pour qu'elle dise ce qu'elle a ressenti et exposer l'enfant qui a tapé à ce que dit sa petite sœur pour développer son empathie, lui faire comprendre qu'elle a eu très peur, qu'elle a eu très mal, qu'elle se sent extrêmement en colère, par exemple, et puis proposer après à l'enfant, mais une fois tout ça passé, parce que c'est pas à chaud qu'on le fait, comment est-ce qu'on peut réparer ce qui s'est passé avec ta petite sœur ? Parce que voilà, elle s'est sentie agressée, elle a eu mal, elle a un bleu, je ne sais pas. Bref, et d'être dans des logiques plutôt de réparation. Est-ce que tu pourrais lui rendre un service, lui dire, est-ce que tu te sens prêt à lui dire aussi des mots d'excuse, d'exiger le pardon, ça marche jamais. Hein, si c'est pour avoir des mots vides, pardon, je m'excuse, on connaît tout ça, les enfants qui disent ça et qu'on ne pense pas un mot et on le sait, ça sert à rien en fait. Ce serait l'occasion, par exemple, de lui dire, voilà, quand tu te sentiras prêt, soit tu peux adresser des excuses sincères à ta sœur ou écrire peut-être un petit mot. Bref, il y a mille et une façons d'imaginer de réparer une relation.
Et du coup, dans le cas dont je vous ai parlé du dimanche après-midi, tu peux aller chez ton copain, mais ça veut dire que tu fais tes devoirs entre 5h30 et l'heure du dîner. Et sinon, la prochaine fois, on refusera l'invitation du copain si tu n'as pas fini tes devoirs. Est-ce que c'est une sanction, une punition ? Parce que là, il y a quand même un accompagnement. On explique quand même, oui, voilà, que c'est important d'avoir fait ses devoirs
Oui, oui, non, mais c'est pas évident. Hein. De toute façon, c'est un sacré métier d'être parent, on le sait. Hein. Et l'idée, c'est pas de viser la perfection. L'idée, c'est de cheminer, c'est d'avoir conscience, en fait. Et je trouve, Hélène, vraiment, dans votre façon d'appréhender les choses, vous avez déjà réfléchi à plein de choses, connecté vos ressentis avec votre vécu, et c'est vraiment, vraiment super. C'est là où peut-être il faut faire un petit zoom arrière. Si cette histoire de devoir, par exemple, c'est lourd, ça prend de la place dans la famille, bah, il faut peut-être prendre un temps pour en parler, en fait, ensemble. De se poser. Alors, c'est ce qu'on appelle, par exemple, un conseil de famille. Après, dans un épisode précédent, j'avais parlé un petit peu de cette nécessité de poser un cadre co-construit familial, où on pose les grandes règles, voilà. Mais avec l'enfant, et cet enfant, votre grand enfant, votre petit garçon de 10 ans, effectivement, vous avez l'impression qu'il va chercher à négocier de plus en plus, mais en fait, c'est parce qu'il a besoin de s'impliquer de plus en plus dans la création du cadre familial, et c'est naturel, en fait. C'est-à-dire que rediscuter avec lui de voilà, dans notre famille, qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est négociable? Qu'est-ce qui n'est pas négociable? Et qu'est-ce qui est complètement libre? Et de poser les choses. Parce que, et le co-construire avec lui. Voilà, si l'histoire des dimanches et des devoirs, il faut voir avec l'enfant. Parfois, il trouve des solutions vraiment très originales ou ils prennent des engagements auxquels on n'aurait pas du tout pensé. Mais l'idée, c'est de l'impliquer, surtout sur des choses récurrentes, l'impliquer dans la recherche de solutions. Vous n'êtes pas là pour donner le bâton à votre enfant, en fait. Vous essayez de l'autonomiser, de le responsabiliser, et une fois que la règle est posée avec lui, de dire bah voilà, donc tu m'as dit que tu t'es engagé, enfin en tout cas pour toi ça te semble faisable et vivable de faire tes devoirs par exemple le samedi entre 14 et 16 heures pour le dimanche être disponible pour aller voir tes copains. Une fois qu'on a décidé ça ensemble, c'est toute la différence. Et ben effectivement, si c'est pas respecté, on rappelle la règle. Donc prendre du temps avec une petite réunion, parfois ça peut durer 45 minutes et même avec des tout petits, hein, ça marche. Hein. Alors là, le cadre est beaucoup plus petit. Hein, les règles, c'est pas du tout les mêmes. Mais plus l'enfant va grandir, plus il va avoir besoin d'un cadre large. Et effectivement, si on pose pas des règles, on va être amené à renégocier chaque détail du quotidien. Donc les sujets récurrents, les temps d'écran, les devoirs, les téléphones ou autres, le temps consacré au travail scolaire ou je ne sais quoi. Effectivement, c'est des choses dont il faut parler en amont, avant qu'on soit le nez devant le problème, en fait. Et une fois que ça s'est posé, on fait juste un rappel à la règle. Tu te souviens, on en a discuté. Le fait de formuler des règles claires, formuler des attentes claires, adaptées à l'âge de l'enfant, c'est fondamental. Et plus il grandit, plus il va vouloir s'impliquer là-dedans. Donc, si j'avais quelque part une piste à donner, ça serait d'impliquer l'enfant dans la construction de ses règles de vie. Parce qu'à 10 ans, je suis sûre qu'il aura beaucoup de choses à dire.
Ok, merci. Je prends la piste.
Mais c'est toujours pareil. Hein. Il ne s'agit pas d'être dans une posture laxiste où l'enfant fait ce qu'il veut. Non, et on sacrifie ses besoins de parents. L'idée, alors après, c'est vrai que quand on a des tout-petits, il ne faut pas se leurrer. Les besoins du parent, il faut savoir les mettre un petit peu de côté quand même les premières années parce qu'on ne vit pas avec un adolescent comme on vit avec un petit de 2 ans, c'est sûr. Et puis, il ne peut pas comprendre les mêmes choses. Il n'a pas la même autonomie. Mais en fait, il faut vraiment accompagner l'enfant et lui laisser peu à peu développer ses sphères de responsabilité et d'autonomie, y compris sur son emploi du temps.
En tout cas, là, ce que vous dites, ça me fait revenir à ce que vous disiez, Hélène, sur la question du dialogue. Alors, là, vous dites poser les règles, mais vous aviez cette question, Hélène, voilà, finalement, jusqu'à quand on explique parce que parfois, bah, trop d'explications. En tout cas, moi, je vois des parents qui, parfois, se perdent un peu aussi dans le tas d'explications où l'enfant bah, va être en permanence en train de négocier alors que c'est pas un truc qui est négociable.
Sauf que si c'est pas négociable, normalement, ça aura été défini dans le, quand on aura posé le cadre familial. Ça fera partie de petit onglet non négociable. Et là, on rappelle à la règle en disant, voilà, ça, on en a déjà parlé. Et on n'en reparle pas tous les jours. Un cadre bien posé, alors c'est un cadre qui évolue dans le temps, hein, un cadre bien posé, ça peut durer 6 mois, 8 mois. Après, c'est vrai que les enfants évoluent vite. Donc après, c'est bien de refaire des petits conseils de famille pour refixer des règles. Et puis parfois, il y a des nouveaux problèmes qui apparaissent. Mais l'idée, c'est toujours, quand on a des problèmes récurrents, d'en parler à distance, sur un moment où tout le monde n'est pas énervé, parce que sinon, c'est pas possible de trouver des solutions. Et de dire, voilà, moi, j'ai ce besoin-là d'être rassurée sur le fait que tes devoirs soient faits, parce que c'est important pour moi que tu aies une bonne scolarité, que ça se passe bien, etc. Et toi, tu as un besoin, bah, tu as un besoin de jouer, comme par hasard, qui souvent le cache chez les enfants, et d'avoir du bon temps. Et tu as un besoin aussi d'être en contact avec tes amis, parce que c'est très important pour toi. Et c'est comment est-ce qu'on va faire coexister ces deux besoins dans des limites qui sont acceptables pour les parents et les enfants. enfants, en fait. Et c'est pour ça que ça demande des discussions, et c'est pour ça qu'il faut le faire à froid. Alors après, on est toujours confronté à l'imprévu, etc., mais un enfant qui négocie tout le temps, ou des parents qui se perdent en explication, expliquer, c'est, je sais qu'il y a vraiment cette idée de quand on pose des mots, c'est forcément plus bienveillant, et c'est vrai, expliquer, c'est fondamental, mais pas tout le temps, pas en permanence, pas sur tout et n'importe quoi, pas à n'importe quel moment. Il y a des temps d'explication où on pose des choses ensemble et puis après, on fait des rappels à la règle. Et puis parfois, eh ben, on n'a pas d'explication à donner. Par exemple, typiquement, l'enfant qui se met en danger, là, il faut l'arrêter. On ne va pas lui expliquer pendant 4 heures que la voiture, elle déboule très vite et qu'il risque d'être écrasé. Là, il faut réagir vite. On met son enfant hors de danger, on assure sa sécurité physique. Et puis après, effectivement, on peut reposer les règles un peu à froid parce que souvent, en tant que parent, on a eu très, très peur. Donc, ce n'est pas le moment de se décharger sur son enfant aussi. Ça, cette notion de responsabilité est très importante parce qu'elle concerne les parents aussi. Prendre la responsabilité de ses émotions et de ce qu'on ressent. C'est sûr que c'est la situation qui l'a provoqué. Mais il y a des parents qui vont arriver à juste dire « Ah là là, j'ai eu très peur ». Et là, c'est plutôt un peu mieux parce que c'est un sentiment qui lui appartient et c'est prononcé en « je » plutôt que « t'es qu'un inconscient ». Bon, la relation où tu, la relation klaxonne, où on projette tout sur l'enfant, on le rend responsable de tout et voir, ça va même un peu plus dans les insultes parfois. Donc, la notion de responsabilité de ses sentiments en tant que parent, elle est très importante aussi.
En tout cas, là, je reviens à la question des menaces. Alors, en préparant l'épisode, Hélène, vous me disiez voilà, que dans vos menaces, vous essayez toujours que ça soit réalisable. C'est-à-dire que si vous devez passer à l'action, que vous puissiez vraiment le faire. Sophie, vous nous disiez qu'en effet, voilà, quand il y a quelque chose qui est décorrélé, bah, c'est d'autant plus incompréhensible pour l'enfant et ça a d'autant moins...
De valeur éducative.
Ouais.
Oui, alors après, les menaces, c'est pareil, c'est un moyen de coercition. Donc, c'est un moyen d'exercer une contrainte sur son enfant. Est-ce qu'il y a moyen de faire autrement ? Sans doute.
Comment on peut faire autrement ? Parce que là, j'ai du coup plein de situations de parents que j'accompagne. Mon enfant jette tout le temps son assiette par terre. Mon enfant tape. On a posé la règle en bienveillance, etc. dans un conseil de famille. Cette règle, elle est transgressée en permanence. Comment finalement les parents peuvent faire pour pas rentrer dans ce système aussi un peu de... punition, récompense, menace.
Oui.
Parce que le parent, il a besoin que les choses aussi se fassent et avancent dans le quotidien. Voilà, quand on est dans le feu de l'action, ben, on rentre le soir, il faut que les enfants dînent, prennent le bain, se mettent en pyjama et se couchent, quoi.
Alors, c'est vrai qu'il y a une multiplicité d'outils hein, proposés par Faber et Maslisch pour répondre à ça. Par exemple, sur le dernier point que vous avez évoqué, Mathilde, la question des routines qui sont des outils co-construits avec l'enfant où on identifie ce qu'il a à faire à chaque moment de la journée, qu'il s'approprie pour pouvoir repérer que là, on en est au moment du bain, là, on en est au moment des devoirs, là, on en est au moment du dodo. Bon, ça permet d'avoir des repères pour l'enfant. Après, il pourrait y avoir des tas de possibilités. La chose que je voudrais rajouter quand même d'importante, c'est qu'une fois qu'on fixe les règles avec l'enfant, on explique les conséquences aussi. C'est-à-dire qu'on les fixe à l'avance aussi. C'est-à-dire que voilà, si ça, ce n'est pas fait, donc il se passera ça et ça et ça. Voilà. Mais toujours en lien avec la règle qui a été posée. L'important, c'est que l'enfant soit informé à l'avance, en fait.
Donc, si à l'avance, l'enfant qui jette tout le temps son assiette par terre est prévenu que s'il le fait, déjà qu'il va ramasser et puis qu'ensuite le repas sera fini, c'est une conséquence. Et finalement, l'enfant est prêt. Voilà, est-ce que là, on est dans la punition ou pas ? Parce que l'enfant est prévenu avec bienveillance, voilà, et informé à l'avance de ce qui va se passer.
Alors, c'est comme tout, ça dépend de l'âge de l'enfant. Parce que si c'est un enfant de 2 ans qui fait ça, et si c'est un enfant de 12 ans qui fait ça, ça n'a pas du tout la même signification. Un enfant de 2 ans, il va faire ça certainement plus dans un besoin de décharge motrice, de jeu. Voilà, un enfant de 12 ans, s'il balance son assiette par terre, à mon avis, c'est qu'il est très en colère, il veut exprimer son mécontentement. C'est une provocation, ça peut être vécu comme une provocation directe par le parent, vous voyez ce que je veux dire. Ça n'a pas du tout la même signification. Dire à un enfant de 2 ans, si tu continues, le repas est fini, ça n'a pas de sens. Enfin, Un enfant de 2 ans, il a besoin de jouer, il a besoin de faire ses expériences, la notion de bien se tenir à table, etc. Là, il est par exemple en pleine découverte, c'est un petit scientifique, un petit enfant. C'est-à-dire qu'il peut observer vraiment intensément la façon dont la nourriture tombe par terre, ça peut l'intéresser, ou ça fait un bruit particulier, ça l'intéresse. Il ne faut pas donner des assiettes qui se brisent, hein, par exemple, des assiettes en plastique, c'est peut-être mieux. Peut-être qu'il veut jouer avec quelque chose en même temps, peut-être qu'on peut lui donner un petit bout de pâte à modeler ou je ne sais quoi, ou on peut lui dire, bah, tiens, ça, tu peux le lancer en lui donnant une petite balle en plastique, et ça, il faut que ça reste sur la table. Vous voyez ce que je veux dire ? De donner des alternatives, en fait, d'ouvrir le champ des possibles.
Oui. Puis là, ce que vous nous dites, Sophie, c'est l'importance de décoder le comportement de l'enfant.
C'est fondamental. Mmh. Alors après, on n'est pas toujours en capacité de le faire, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Parfois, on est submergé par notre quotidien, par nos problèmes, par nos émotions, mais ça, il faut en être conscient aussi. C'est pour ça qu'être connecté à soi-même, savoir de soi-même où on en est, est-ce que je suis en capacité d'offrir la bienveillance à mon enfant ou pas ? Si je ne le suis pas, je passe le relais à l'autre parent ou je m'éloigne de la pièce ou du moment et puis je reviens après.
Là, je pense à d'autres situations. Alors, la question de l'enfant. Alors, c'est peut-être arrivé avec vos enfants, Hélène, qu'un de vos enfants vous mente ? Non, ils ne mentent pas, ils sont parfaits.
Non, j'ai pas d'exemple. Après, là, c'est vrai qu'ils sont quand même assez grands, hein, 8 et 10 ans, donc, enfin, presque 8 et 10 ans, ce serait très conscient comme mensonge. Donc, du coup, j'ai pas de souvenir. Ils m'ont peut-être menti plus petit, mais j'avoue que là, j'ai pas de souvenir de mensonge.
Mais justement, voilà, chez un enfant qui est plus grand, voilà, qui va mentir sur, par exemple, voilà, je sais pas, qu'il est allé chez tel ami alors qu'il a dit qu'il allait chez un autre ami, voilà. Où il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un enjeu de sécurité. Que peut faire le parent face à ça ?
Une fois qu'il a découvert, que le parent a découvert la vérité, il faut qu'il s'en explique avec son enfant. L'idéal, ce serait effectivement d'essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé pour l'enfant. Après, il y a une conséquence qui est naturelle au mensonge. Quand tu me mens, j'ai du mal à continuer à avoir confiance en toi et en ce que tu me dis. Voilà, c'est plus difficile pour moi de te faire confiance. Et il faut que l'enfant comprenne que ça attaque la relation et le lien de confiance et la confiance que le parent peut lui faire. Après, ça dépend vraiment de l'âge de l'enfant. Par exemple, le mensonge à 3 ans ou 4 ans, distingue mal l'imaginaire de la réalité. Ce qui va être vu comme un mensonge par les adultes, c'est pas du tout un mensonge pour l'enfant. Mais dire quelle est la conséquence d'un mensonge à l'enfant, de lui dire effectivement, ça attaque le lien de confiance et la confiance que j'ai avec toi. Et après, comprendre le pourquoi du mensonge, à froid, de dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Est-ce qu'il a menti parce qu'il avait peur de la réaction du parent ? Parce que c'est souvent une des raisons du mensonge, peur de la réaction, peur d'une punition, voilà. Est-ce qu'il a menti parce que c'était par facilité, parce qu'il n'avait pas envie qu'il y ait des conséquences désagréables ou je ne sais quoi ? Bref, ça interroge toujours ça. Après, il faut effectivement qu'ils comprennent la conséquence du mensonge. Et puis nous, il faut qu'on comprenne ce qu'il a essayé de faire. C'est-à-dire que il avait apparemment besoin de voir cet autre ami. Il s'est mis en danger parce qu'il avait très envie de le voir. Quand on est dans une relation de confiance et de bienveillance, il aurait pu venir nous en parler. Et on aurait essayé de trouver des solutions pour que plutôt que d'aller prendre, par exemple, un bus, d'aller à l'autre bout de la ville tout seul, alors que c'est pas du tout dans son périmètre, on aurait pu organiser avec les parents de l'autre enfant que ce week-end, on l'emmène en voiture chez lui, par exemple, pour qu'il puisse voir cet ami. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que tout se joue après dans la relation de confiance avec l'enfant et que c'est quelque chose de très important de garder ce lien de confiance. Dire voilà, quand tu me mens, que tu te mets en danger, ben ça attaque la relation de confiance. C'est dur pour moi après de te croire. C'est dur pour moi après de te laisser plus de liberté ou de comprendre ce qui s'est passé.
Du coup, Sophie, il y avait une autre situation qui me venait en tête, c'est la crise au supermarché.
Oui.
Parce que voilà, là, quand il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'enjeu, du regard social, des autres, et puis d'être dans un lieu où on attend que les enfants et les adultes aient des comportements appropriés.
Eh oui. Alors, c'est assez classique, hein, la crise au supermarché. Alors, souvent, c'est chez des enfants assez petits, hein, c'est moins de 10 ans, parce que c'est vrai qu'il y a une question un peu de l'immaturité cérébrale de l'enfant qui joue beaucoup. C'est-à-dire que dans la réalité, un supermarché, c'est un environnement qui est extrêmement stimulant pour l'enfant. Alors quand je parle de ces grandes surfaces, là, avec plein de lumière, plein de couleurs, avec de la musique, avec des étalages immenses de friandises, de jouets, de choses qui parfois peuvent surstimuler véritablement le cerveau de l'enfant. Et du coup, il va focaliser son attention sur un objet et faire une prise, entre guillemets, pour l'avoir. Voilà. Ça, c'est assez typique. Si en plus, on est dans le contexte de fin de journée, après le boulot, parents épuisés, enfants qui ont vécu une journée de crèche ou d'école, etc. Alors là, c'est le pompon, on va dire. Et en plus, on a évidemment le regard des autres sur nous, ce qui généralement ajoute un niveau de pression supplémentaire pour le parent parce qu'il se sent regardé, il se sent jugé. Malheureusement, les regards sont pas toujours très bienveillants autour et le parent se sent sommé de réagir. Alors, il peut y avoir plusieurs possibilités de réaction. Déjà, la crise, entre guillemets, on la sent venir. C'est-à-dire qu'on voit l'enfant, peut-être qui court un petit peu partout, qui commence à réclamer des choses, qui est tendu. Bon, une des premières choses qu'on peut faire, par exemple, c'est le faire participer, lui donner une mission. Déjà, pour au niveau cérébral, le focaliser sur quelque chose. Parce que c'est ça, en fait. L'idée, ça va être de le focaliser sur un objectif. Et plutôt que ce soit l'objectif qui se mette à vouloir absolument un jouet, une friandise, etc., ça va être, voilà, tiens, est-ce que tu veux bien aider maman? Tu vas me chercher des tomates? Tu les choisis comme ci, comme ça? Bon, déjà, ça va occuper l'enfant, puis ça va le mettre dans une position valorisante de participation. On peut aussi clarifier les attentes avant d'entrer dans le supermarché. Me dire, voilà, je sais qu'on est très fatigués tous les deux ce soir. Maman, elle va essayer de faire le plus vite possible. Voilà. Je regarde, j'ai ma liste de courses, je dois acheter ça, 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 ça. Tu es d'accord qu'on le fasse ensemble et j'ai besoin que tu restes dans le caddie ou que tu te tiennes tranquille pour que ça soit le plus rapide possible. On passe à la caisse, on rentre à la maison et là, on pourra se détendre, etc. Donc, formuler des attentes claires et en amont de la situation pour que l'enfant sache qu'est-ce que vous attendez comme comportement.
À travers cet exemple, Sophie, du coup, voilà, dans les solutions bienveillantes alternatives, vous nous dites voilà, faire participer l'enfant, lui donner une mission, formuler des attentes claires. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme solution alternative à la punition ?
Par exemple, de donner un choix. L'enfant, par exemple, court partout et lui dire « Écoute, c'est pas possible que tu ailles partout dans les rayons parce que moi, je peux pas te surveiller, courir après toi. Je dois pousser le caddie et j'ai certaines choses à acheter. » Alors, soit effectivement tu restes à côté de moi tranquille ou sinon il faudra que je te mette dans le caddie pour m'assurer que tu es en sécurité auprès de moi et que tu cours pas partout dans le magasin. Donc on lui dit à l'avance, avant que ça tourne mal, on lui dit à l'avance, si c'est trop difficile pour toi de rester auprès de moi, ben tu viendras dans le caddie. Alors ça, c'est pas une punition, c'est une conséquence, parce que nous, on a besoin de savoir notre enfant en sécurité auprès de nous et pouvoir mener à bien nos courses à faire. Et effectivement, quand ça ne se passe pas comme on voudrait, eh ben, on met à l'œuvre ce qu'on a énoncé, c'est-à-dire qu'on met l'enfant dans le caddie. Quand il y a la crise, entre guillemets, qui se produit malgré tout, le mieux, en général, c'est de s'isoler, d'aller à l'écart, même dans le magasin, voire de sortir du magasin, pour permettre à l'enfant de décharger émotionnellement, de se mettre un petit peu à l'abri des regards, parce qu'en général, ce n'est pas sous les regards des autres qu'on a les meilleures réactions, et puis permettre à la crise de se passer. Donc ça arrive, moi ça m'est arrivé qu'avec des tout petits enfants, je doive écourter les courses parce que c'était trop compliqué, avec des petits, hein, j'entends, parce que c'était pas le bon moment en fait. Voilà. Il y a aussi la question de l'organisation, de l'environnement. Parfois, effectivement, il arrive qu'avec des tout petits, en fin de journée, dans un contexte où il y a beaucoup de tensions, etc., ce soit compliqué d'aller au bout de ses courses, je pense que. Et je préfère terminer la dernière chose que j'avais achetée plutôt que ce soit mon enfant qui en pâtisse. Donc après, en tant qu'adulte, on peut toujours trouver des solutions alternatives. Envoyer son conjoint finir de faire les courses, commander quelque chose. Bon, là, c'est situation d'urgence. Je ne dis pas du tout que c'est toujours ce qu'il faut faire. Mais il faut toujours essayer d'ouvrir. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que l'enfant peut tenir et ce qu'il ne peut pas tenir? Mais en général, on le voit venir, quand on connaît bien son enfant, on le voit venir de loin.
Ce qui est compliqué aussi, c'est que par rapport à ce que vous dites, j'ai l'impression que c'est différent aussi selon chaque enfant, parce que vous dites on connaît bien son enfant. Moi, j'ai l'impression en effet que mon fils, si je lui explique bien là ce que vous disiez, voilà, on va faire ça, ça et ça, il va se sentir investi d'une mission, il va en effet, ça va le canaliser. Ma fille, si je lui raconte ça, en fait, elle, ça va pas du tout l'intéresser. Par rapport à l'exemple que vous donniez, peut-être plus l'accompagner si je sens qu'elle s'énerve, peut-être plus la prendre dans mes bras, des choses comme ça. C'est vrai que ça, c'est difficile aussi, c'est que la réponse est différente aussi selon l'enfant. Donc voilà.
En tout cas, là, vous nous dites bien l'une et l'autre à quel point ça mobilise les capacités d'adaptation du parent.
Oui, c'est sûr.
Pour décoder, mettre d'autres choses en place malgré la programmation initiale qui est peut-être de punir, d'aller à l'encontre de ça. C'est compliqué, c'est tout un processus, ça demande du temps, quoi.
Ça demande du temps, ça demande de la réflexion. Quand on est deux parents, ça demande d'y réfléchir ensemble. Parce que c'est très compliqué de s'engager tout seul dans ce genre de processus, hein, clairement. Il faut avoir au moins l'approbation ou le soutien hein, de sa compagne ou de son compagnon qui est engagé aussi dans l'éducation, parce que si lui, il fait complètement différemment, sur ce point-là, c'est très, très compliqué. Malheureusement, pour tous les parents que j'ai reçus, que j'ai formés, etc., c'est souvent, parfois peut-être plus compliqué que de réfléchir soi-même dans sa relation éducative avec son enfant. La question du conjoint, de la conjointe, elle est vraiment cruciale, en fait. Mais oui, c'est tout un processus. Après, les bénéfices, ils sont énormes. On a une autre relation avec son enfant. On sort d'une relation de pouvoir, on sort d'une relation bâton-carotte, hein, c'est-à-dire punition-récompense. On aide l'enfant à apprendre à maîtriser, à gérer ses émotions aussi. Après, il faut jamais oublier l'exemple, ce qu'on montre à l'enfant nous-mêmes. Hein, exiger de l'enfant des réparations, prendre ses responsabilités face à une situation, etc. Alors que nous-mêmes, par exemple, en tant que parents, on ne le fait pas. C'est compliqué aussi. Les enfants sont extrêmement sensibles, je le dis toujours. Les enfants sont beaucoup plus sensibles à vos comportements qu'aux mots ou à tous les sermons de morale que vous pourrez leur faire. Hein. Par exemple, quand on exige des réparations, quand il y a des erreurs qui sont commises, on doit aussi, en tant que parent, savoir réparer, être exposé aux conséquences. Quand on a été trop loin avec son enfant, il faut savoir revenir auprès de lui et lui demander pardon, lui présenter en tout cas des excuses. C'est important. On ne peut pas demander à un enfant de faire ça si soi-même, on ne le fait jamais, en fait.
Bien sûr. En tout cas, comme vous venez de nous le dire, Sophie, hein, trouver des alternatives à la punition, mettre en place une autre manière de fonctionner avec ses enfants, c'est tout un processus, c'est toute une démarche qui prend du temps. Et une démarche aussi dans laquelle le parent va faire des erreurs. Et c'est aussi comme ça qu'il va apprendre. Voilà, dans parentalité, hein, on dit toujours que les parents parfaits, ils n'ont pas d'enfants.
C'est vrai. Peut-être la dernière chose que je pourrais rajouter dans la dimension éducative d'un comportement inapproprié ou autre, c'est que le parent montre à l'enfant aussi comment réparer la chose, qu'il y a une issue en fait à ce qui vient de se passer, qu'un objet cassé, on peut le recoller, que quelque chose qui est tombé, on peut éponger. Alors peut-être pas, par exemple, pour des tout-petits, peut-être pas tout seul, à 3 ans, il vient de renverser une cruche d'eau, je ne sais pas. Bon, voilà. On lui montre, on l'accompagne aussi dans la question de la réparation. Ou par exemple, le grand frère qui tape sa petite sœur, on l'aide à réfléchir, on lui propose des choses si ça ne lui vient pas en tête spontanément. Donc, que l'adulte aussi soit là pour l'aider à montrer comment est-ce qu'on répare les choses, comment est-ce qu'on s'en sort positivement, comment est-ce qu'on donne une issue éducative, on va dire, à tout ça.
Merci Sophie. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Qu'est-ce que vous auriez à nous recommander pour aider les parents à aller plus loin pour ceux qui le souhaitent?
Alors bon, évidemment, les livres Faber et Maslisch hein, dont je vous ai parlé sur les premiers épisodes, parce qu'il y a un chapitre particulier sur la question de la punition. Après, des auteurs qui sont des auteurs très connus au niveau de l'accompagnement bienveillant des enfants, par exemple comme Olivier Morel qui a écrit « La fessée, question sur la violence éducative ». Qui est un livre vraiment très intéressant. Je peux vous recommander aussi le livre de Thomas Gordon, « Éduquer sans punir ». La méthode Gordon, c'est une méthode aussi qui est très, très intéressante. Et puis, Catherine Dumonteil-Crémer aussi, qui est assez connue, qui a écrit « Une nouvelle autorité sans punition ni fessée », qui est vraiment, vraiment un livre intéressant pour un peu repenser la question de l'autorité, puis avec beaucoup d'exemples au niveau du quotidien pour aider les enfants à modifier, et les parents à modifier leur comportement.
Merci beaucoup, Sophie. Un très grand merci, Hélène, d'être venue partager avec nous toutes vos réflexions sur cette question de la punition. Un grand merci, Sophie Baudry. Je rappelle que vous êtes psychologue, animatrice des ateliers Faber et Maslisch pour les parents et les professionnels. Un grand merci à toutes les deux.
Merci Mathilde, merci Sophie.
Merci à vous.
Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et on se retrouve dans un prochain épisode.